que vous présentez un travail de recherche et développement qui a pour fil conducteur de la didactique du volleyball. En réalité, il y aura des diapos qui sont assez, des tableaux qui sont assez complets sur lesquels je passerai vite. Je les ai mis parce que ça permet de les mettre en ligne si vous voulez y revenir et les voir en détail. Donc, ça sera peut-être sur le moment frustrant pour vous, mais vous pourrez les retrouver en ligne. Donc ça, c'est un itinéraire qui a été très long et qui a commencé par la production de films didactiques. En introduction, je voudrais rappeler quand même que à chaque fois qu'on parle de nouvelles technologies, peut-être pas ici parce qu'il y a des gens informés, mais on est toujours devant la séduction du modernisme et des enthousiasmes, et derrière, on a souvent une désillusion. Ça fait très longtemps que je fais de la formation en audiovisuel, par exemple, et j'ai toujours constaté ce mouvement, des gens, ah oui, ça va être formidable, ça va marcher très bien, et puis après, ça marche pas. Et pourquoi souvent ça ne marche pas? Parce que l'outil prend le dessus, l'outil prend le pas, la séduction de l'outil prend le pas, et on ne réfléchit pas souvent assez au processus qu'on met en jeu, on ne repense pas réellement le processus de formation. C'est ce que je vais essayer, c'est l'itinéraire que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire à chaque fois de faire une analyse de ce qui est en jeu. Dans ce travail sur l'audiovisuel et les nouvelles technologies, la formation à l'intervention, c'est-à-dire la formation des enseignants ou des entraîneurs, c'est un paradigme tout à fait spécifique qu'il faut différencier de celui de la formation des élèves, par exemple, de la formation des pratiquants pour le sport. Je vais aller très vite sur quelque chose que je voulais rappeler, mais qui a été rappelé précédemment par Patrick Pelayo, c'est-à-dire qu'il y a aussi un problème à l'université, c'est le statut de la publication multimédia. À la fois parce que c'est ce que Christian Metz, un spécialiste du cinéma, appelle une énonciation impersonnelle. Qui parle? Qui est l'auteur de ça? Et en même temps, parce que le statut de cette publication et le statut de l'auteur n'est pas apparent. Donc, il me semble que dans le développement, ça sera quelque chose qu'il faudra creuser, auquel il faudra répondre. Et d'ailleurs, quand on va sur Internet, qui parle, qui dit quoi, hein, et nos étudiants circulent sur Internet, et à un moment donné, on trouve des choses, mais le statut de l'énonciation, le statut de la publication est assez flou. Donc, ça me paraît être un problème. J'avais signalé aussi dans une thèse que j'avais fait il y a pas mal d'années que la vidéo, mais il en est de même pour des supports hypermédias, elle est incitative souvent, mais elle est incitable. C'est-à-dire on ne peut pas faire de citation en disant dans le clip sur tel à tel endroit à tel endroit, on a vu que. On fait des citations d'auteurs, on fait des citations de publications scientifiques, mais il est difficile de... Et ça aussi, dans le monde, dans les références où nous fonctionnons, ça donne aux publications en nouvelles technologies, enfin TIS, un statut particulier. Donc, il semblerait que pour ces raisons-là, on doive mettre en place un vrai itinéraire de recherche et de développement. C'est pas simplement une publication, c'est pas simplement une production, c'est une interrogation sur qu'est-ce qui est produit, qu'est-ce que ça c'est censé susciter chez les utilisateurs, et qu'est-ce que ça suscite réellement, c'est-à-dire est-ce que ça... Donc, la méthodologie que j'ai suivie au cours de ces années, d'abord sur des films, donc j'ai produit plusieurs films, mais là je vais parler que de celui que j'ai produit sur le volleyball, et après du site internet sur le volleyball, ça a démarré sur l'analyse des représentations initiales chez les étudiants, ensuite, pour déboucher sur la production d'un film didactique, en revenant sur l'analyse des productions didactiques, c'est-à-dire de ce qui a été modifié chez les gens qui ont vu le film, ça m'a amené à faire une recherche élargie sur la production audiovisuelle pour la formation des formateurs en STAPS. Ensuite, la production d'une ressource hypermédia qui est un site. Et je suis en train de travailler, et je vous présenterai ça à la fin de cet itinéraire, sur les accès à ce site, c'est-à-dire les gens qui y vont, qu'est-ce qu'ils regardent, comment ils utilisent cette ressource. Alors très rapidement, comment j'ai démarré là-dedans? Eh bien, en fait, le volleyball n'était pas enseigné, très peu enseigné, ou très mal enseigné, c'est-à-dire que les compétences des élèves étaient très faibles. L'hypothèse que j'ai faite, c'est qu'il y avait dans les représentations des enseignants quelque chose qui faisait obstacle à l'enseignement, d'abord à décider d'enseigner cette activité, et deux, à l'enseigner efficacement. Deuxième hypothèse, c'est assez classique dans l'utilisation des TIS et de la vidéo, c'est la notion d'administration de la preuve. Je vais leur montrer, donc ça va marcher, donc ça va déclencher. Donc, la deuxième hypothèse était que la vidéo était un vecteur de transformation efficace, serait un vecteur de transformation efficace. Donc, la première phase, c'est l'analyse de leur représentation. Je vais passer là-dessus, c'est ce dont je vous ai parlé, mais on peut noter, par exemple, je leur demandais quel est l'âge optimum pour enseigner le volleyball, et ils m'annonçaient plus de 13 ans chez les instituteurs ou plus de 11 ans chez des étudiants STAPS. Donc, a priori, c'était pas pour eux, et le terrain cible... Donc ça, c'est la représentation qu'ils ont des règles, je vais pas m'étendre là-dessus. Et ensuite, les tâches d'apprentissage. Je leur ai demandé de me proposer des fiches de leçons. Et j'ai demandé à proposer des fiches de leçons à des gens qui n'avaient pas vu le film et à des gens qui ont vu le film. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses très importantes comme le terrain cible. En fait, le volleyball, ça consiste à envoyer un ballon dans le terrain adverse. Le but, il est par terre, mais c'est comme le football, c'est comme n'importe quel autre sport où il y a des buts, sauf que le but est par terre. Et vous regardez que chez le groupe 1, le terrain cible apparaît dans 5%. Donc on se préoccupe d'envoyer le ballon dans la cible dans 5% des cas, des propositions qui sont faites. Dans le groupe 2, on s'intéresse au fait de réussir à envoyer le ballon dans la cible dans 18% des cas. Ce qui est quand même très éloigné de la logique fondamentale. Il y a aussi des choses un peu plus compliquées sur la gestion des temps de trajectoire. Mais dans tous les cas, ils sont très très éloignés de la réalité de la tâche, c'est-à-dire des contraintes spécifiques de la tâche qui vont déterminer les ressources qu'on va développer. Et on peut conclure très brièvement, bon, je vous donnerai un lien s'il y en a que ça intéresse de voir les analyses, les résultats de manière plus approfondie. On voit que c'est un système, ce qu'on peut appeler un système formel du volleyball. Effectivement, il y a un obstacle dans la représentation. Le système des règles est incomplet et dénaturé. Par exemple, on dit, il faut faire 3 passes. C'est la dénaturation la plus fréquente, comme si c'était une obligation et non pas la possibilité d'utiliser 3 passes pour atteindre la cible adverse. Donc le but devient de faire 3 passes. Les contraintes du jeu sont sous-représentées, et en particulier la contrainte temporelle que représentent les sports où l'on frappe dans la balle au lieu de la tenir. Et la représentation des obstacles, c'est-à-dire des difficultés que rencontrent les élèves pour jouer, est aussi erronée. Donc j'ai produit un film dont vous avez quelques images, j'ai pas le temps de vous montrer le film, puis les qualités, il a été produit en VHS, c'est très mal géré. Donc vous voyez que les conditions sont des conditions réelles, sont même des conditions favorisantes, et que les élèves sont des élèves réels, et donc c'était un discours ciblé à partir d'items identifiés. Sur le groupe expérimental, c'est-à-dire celui qui a produit des leçons après avoir vu le film, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que il y a une évolution très sensible des représentations. Je vais vous donner l'exemple de la cible terrain. Ben, la cible terrain, pour le groupe expérimental, elle passe à 60%. Elle passe de 5% à 60%. Donc dans 60% des tâches proposées, on a la préoccupation d'envoyer le ballon dans la cible adverse. Donc on se rapproche quand même, au moins dans la conception, sensiblement de la réalité du jeu et des compétences visées. Ensuite, je me suis penché sur l'application sur le terrain. Donc j'ai suivi 6 étudiants pour des leçons, pour voir comment ils appliquaient ce qu'ils avaient programmé. Et là, on voit les limites, c'est-à-dire que la conception a évolué, mais la manière de gérer les situations, les comportements des élèves, les erreurs, là, ça a chopé très nettement. Hein. Et donc, ça veut dire que le film est un discours convaincant, mais que le film échoue à transformer les compétences en profondeur, et notamment les compétences d'intervention, c'est celle qui nous préoccupe. À partir de là, j'ai fait une recherche qui a débouché sur une thèse sur la production didactique des vidéogrammes dans la formation des formateurs. Très rapidement, qu'est-ce qui ressort, et c'est un condensé dans le sens de notre préoccupation d'aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort de ce travail, c'est que l'image sert d'administration de la preuve. On fait un discours, on l'illustre pour que le discours ait plus de poids et qu'on ne doute pas de ce qui est dit. L'image réelle et l'image et le réel sont mis en relation par des analogies formelles. C'est-à-dire qu'on nous dit, regardez, ça se passe comme ça, mais si on analyse bien la situation et si on la connaît, on s'aperçoit qu'il y a une manipulation. on s'aperçoit que ce qu'on nous montre, c'est un abstract qui n'est pas forcément représentatif de la situation réelle. Donc c'est ce que j'appelle des analogies formelles. Et on s'aperçoit qu'on est centré sur des adultes masculins de haut niveau, c'est-à-dire les sujets qu'on voit le plus souvent, c'est ça. On s'aperçoit que l'erreur est disqualifiée. Or, l'erreur dans l'apprentissage, non seulement elle est utile, mais elle est nécessaire, mais en plus, c'est ce que verra l'enseignant. Donc, si l'enseignant n'est pas habitué à voir les erreurs, à les comprendre, à les analyser, à y remédier, on a un problème. C'est-à-dire qu'il a l'image de ce vers quoi on doit aller, un modèle, et il est peu équipé pour analyser les erreurs. Enfin, il a un positionnement centré et étroit, et là je me réfère à un modèle que Jean-Louis Martinant avait développé pour caractériser les recherches en didactique, et j'avais utilisé ce modèle pour positionner, si on considère que l'enseignement c'est aller sur un axe des connaissances vers la décision et des procédés vers les contenus, on a des problèmes sur les contenus, qu'est-ce que j'enseigne, quel est le contenu d'enseignement, sur les procédés, comment je m'y prends, et sur les connaissances, sur quelles connaissances je me fonde pour organiser mon enseignement, et à la fin je dois aboutir à des décisions, eh bien on s'aperçoit que les produits se centraient de manière assez étroite sur des compromis où on n'était jamais vraiment informé de manière très approfondie dans aucun de ces domaines qui pouvaient fonder l'action de l'enseignant. Toujours dans les résultats de cette recherche, on s'aperçoit que ce que Geneviève Jacquinot, qui avait écrit « Image et pédagogie » il y a bien longtemps, dans les années 70, appelait le degré d'écriture filmique, reprenant une notion qui avait été développée avant elle, le degré d'écriture filmique est faible, c'est-à-dire que l'utilisation des ressources du médium est faible. Et ça, on peut y repenser pour l'hypermédia. Quelle utilisation je fais des ressources réelles du médium que j'utilise, ou des médias que j'utilise. On voit que le degré dans un film, et ça c'est lié au film et à sa linéarité, les relations sont figées entre les mondes de référence. Geneviève Jacquinot dit que faire un produit multimédia, c'est mettre en relation des mondes, le monde du spécialiste, le monde de la classe, le monde de la pratique sociale, par exemple, dans notre domaine, et créer un sens en établissant des relations voulues entre ces signifiants appartenant à différents mondes. Et donc, dans un film, on fige les relations entre les modes, puisqu'on est dans un système textuel qui organise de manière figée ces relations. Et l'interaction didactique, c'est-à-dire ce que doit faire l'enseignant sur le terrain, est sous-représentée. Elle est pratiquement toujours absente. Qu'est-ce que change l'hypertexte ? D'abord la notion d'hypertexte, puis l'hypermédia, donc la construction par lien. C'est que on n'a plus affaire à un spectateur, on a affaire à un utilisateur. On n'a plus un discours, on a des scénarios d'accès. Et on n'a plus un système textuel figé, on a des liens multiples. Autrement dit, d'une certaine manière, ça inverse la relation utilisateur-énonciateur. Dans le cas classique du cours magistral, il y avait un énonciateur et une cible. Après, on l'a transposé sur le film où on avait toujours un énonciateur qui parlait autrement, qui mettait en relation des mondes, mais qui parlait à un public. Et maintenant, on est devant un utilisateur, c'est lui qui vient construire le sens. C'est la manière dont il va accéder aux ressources qu'on lui propose qui va construire le sens. Et on peut dire que c'est quasiment une inversion de la relation. Alors, les cahiers des charges que j'ai établis pour ma production suivante à partir de ce travail, c'était créer une ressource qui modifie les représentations formelles du jeu, qui modifie les représentations des capacités des élèves de 6 à 16 ans en volleyball, qui me permet de faire émerger les contraintes réelles et fondamentales du système du jeu et des tâches, et qui permet de former l'intervenant à l'analyse des comportements moteurs dans leur variabilité, et non pas dans un modèle d'adulte figé dans la réussite et dans le geste parfait qui n'existe pas. Donc ça, c'est la culture du spécialiste des activités physiques et sportives, du technologue et du didacticien des activités physiques et sportives. Ce qui m'a amené à, dans la conception et l'architecture de la ressource, à définir, former un modèle théorique et technologique du jeu, et j'insiste sur la dimension technologique, à créer 3 catégories de contenus novatrices, à apporter des ressources scientifiques et technologiques, c'est-à-dire il y a des ressources sur les temps de réaction, il y a des ressources sur la mécanique du smash, etc. À présenter des populations d'élèves dans des conditions réelles, à présenter une variété des comportements moteurs, y compris des échecs et des erreurs, à proposer des situations d'apprentissage que les gens pourraient aller chercher à la demande, et des fiches d'analyse des productions motrices. C'est-à-dire que, vous allez voir, on a des productions motrices et on revient sur... elles peuvent être vues sans commentaire et après on revient avec une analyse. Et à présenter des phases de match, non pas des champions olympiques, mais des phases de match dans la catégorie d'âge et au niveau de ses élèves. Pour produire cette ressource, on a bien sûr... On doit s'appuyer sur des concepts et des contraintes spécifiques de l'hypermédia, c'est-à-dire les concepts de l'image, qui sont les mêmes donc que dans l'audiovisuel, plus les concepts d'architecture et de navigation, de nœuds, les nœuds de contenu, les nœuds d'orientation, le grain, le niveau de largeur, le niveau de profondeur, lesquels en se combinant déterminent le niveau de complexité de la ressource, et la notion de représentation utile, c'est-à-dire... Comment on va accéder, on va permettre à l'utilisateur d'avoir une représentation utile du site? À la fois, comment on peut y accéder et quel est son modèle? Quelle est sa logique? Donc, pour que l'utilisateur ait l'utilisation qu'on souhaite, on se pose la question de quelle représentation de la utile de la ressource va-t-il faire? Et ça, c'est de la culture de l'hypermédia et de la culture de l'audiovisuel. La méthodologie de production... Ça relève de l'ergonomie cognitive des systèmes hypermédias. La réflexion qu'on doit avoir, c'est comment les gens pensent, comment les gens fonctionnent devant une ressource hypermédia. Et ça exige de la part d'un auteur de modéliser son domaine de connaissance, sur le volleyball, comme ici, de modéliser le fonctionnement de l'usager, comment l'usager va fonctionner devant ma ressource, et de modéliser les tâches de l'usager et de son comportement en situation. Pourquoi il est venu devant cette ressource, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va avoir à faire et comment il se comporte. Et là, les moyens qu'on a pour le premier point, ça relève de l'auteur, mais les deux autres, ça relève de moyens spécifiques de recherche et d'études. Donc voilà comment se présente la ressource, je vais la lancer. On le verra très brièvement et comme elle est en ligne. Donc vous voyez les items qui sont ici. Temps de trajectoire, attaquer, défendre la cible seule. Ici, on a une explication avec une analyse du modèle du jeu. Et si je prends par exemple ici, j'accède à des ressources qui sont... Alors je ne vais pas pouvoir tenir, donc je ne fais pas défiler. Elle, la page continue vers le bas, mais il ne faut pas que je lâche le micro. Je prends l'exemple sur le service bas. J'ai à la fois des explications, des propositions pour organiser la situation... et une vidéo des élèves. Comme vous voyez, c'est pas dans des situations idéales, des situations facilitantes, et c'est pas avec des sportifs de haut niveau. Donc, on va voir un certain nombre de comportements moteurs, qui sont les comportements réels.
Ah, mais j'ai mal.
Une fiche d'observation, et on peut revenir sur les mêmes comportements moteurs. Et pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux y remédier? Donc, par des ralentis, par des incrustations, on peut prendre des repères sur ce que l'enseignant verra réellement sur le terrain dans les conditions où il travaille. Bon, on avait le son tout à l'heure, on l'a plus. Hein. Ça fait partie des aléas. Voilà, bon, il y a des choses.
Donc, on fait émerger les points clés qui expliquent l'erreur, l'échec, les points clés sur lesquels il faudrait intervenir. Alors, l'autre type de ressources, ça serait par exemple dans les
ressources technologiques et scientifiques. Je vais prendre celle-là aussi parce qu'elle est accessible. Réagir ou anticiper, qu'est-ce que c'est que réagir, qu'est-ce que c'est qu'anticiper? Pour l'organisation dans le temps, qui est la source d'échec, la non-perception des signaux et la non-organisation dans le temps, on a des animations qui permettent... Voilà. De voir comment on s'organise d'abord au niveau du débutant, comment, par faute de communication et de signaux et d'organisation de repères dans le temps, on a échec sur... un renvoi direct, Et comment on passe à la réussite renvoi direct? Donc je laisse. Voilà, bon là c'est le renvoi en deux temps, et puis on a une phase juste après du renvoi en trois temps, c'est-à-dire que là on a des contenus d'enseignement d'ordre didactique et technologique, c'est-à-dire comment on doit s'organiser les élèves pour arriver à faire face à l'exigence du jeu et la pression des temps de trajectoire. Voilà. Donc maintenant, et c'est la dernière partie de mon intervention, j'étudie la manière dont les gens accèdent à ce site. C'est-à-dire, moi j'ai fait quelque chose qui a des objectifs très précis, qui ont émergé d'une recherche et d'un travail de longue haleine. Je travaille sur un volume de 1500 à 6000 connexions par mois. Chaque connexion correspondant en moyenne à 5 pages consultées. Par exemple, au mois de septembre, il y a eu 12 000 pages, sur le mois de septembre, 12 000 pages vues sur ce site. Donc, il y a une fréquentation importante si on considère que c'est qu'une APS et que c'est en français. Bon, j'ai des consultations dans toute la francophonie, beaucoup au Canada, un petit peu aux États-Unis. J'ai des emails qui m'arrivent d'Argentine. J'ai aussi des emails très sympathiques et beaucoup qui me viennent d'Afrique. Parce que comme ça a été dit hier en conférence plénière, il y a des gens qui me disent, j'ai reçu un email, merci, merci, merci. C'était quelqu'un qui était à Ouagadougou, je ne sais où, et Ouagadougou, voilà, et qui me disait, pour nous, c'est on va sur Internet et on a une ressource. Alors il y en a même qui m'envoient des emails pour me dire j'ai une séance à faire cet après-midi, voilà. Donc pratiquement là c'est la hotline, hein, ça devient autre chose. Et là je donne pas suite en général. Bon, sur les pages consultées. On voit donc l'évolution des pages consultées, mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un grand écart dans la fréquence entre les items. Vous vous rappelez des 9 items, défendre la cible seule collectivement, erreur probable, continuité rupture. Et voilà comment elles se classent. C'est-à-dire que, de manière très étonnante, ce sont les ressources technologiques et scientifiques et les animations telles que celles que je viens de vous montrer qui sont les pages les plus fréquentées. Ça nous dit quelque chose sur les attentes. Ensuite, ce sont les techniques de frappe qui sont les plus consultées, ces deux très loin devant les autres. Et derrière, on va trouver attaquer, défendre la cible collectivement, l'organisation pédagogique, les temps de trajectoire, attaquer, défendre la cible seule, et la notion de continuité rupture, c'est-à-dire la gestion de la contrainte de temps, et la notion d'erreur probable, c'est-à-dire la gestion des espaces. Parce qu'en fait, le volleyball est souvent enseigné comme la production d'un scénario idéal qui n'arrive jamais ou qui arrive une fois sur 100, alors que quand mon camarade va recevoir la balle en réception, ce qui est probable, c'est qu'il va faire une erreur. Donc ce à quoi je dois m'attendre et ce sur quoi je dois m'organiser, c'est l'erreur qu'il va faire et non pas l'idée qu'il va me faire une réception parfaite à un poste de passeur qui lui n'aura pas à bouger pour aller chercher la balle. Or c'est très souvent là-dessus. Or ces deux items d'erreur probable et de continuité rupture sont au cœur de la transformation qui était souhaitée. Donc, en fait, première question, est-ce que ces items sont les plus consultés de par leur position dans l'architecture et dans le bandeau des... Il semble pas. Il n'y a pas de corrélation qu'on puisse faire entre la position dans l'architecture et la fréquentation. En fait, on s'aperçoit que la navigation subit une très forte prégnance des représentations initiales telles que je les avais détectées dans les différentes enquêtes à plusieurs moments. Les items novateurs, donc continuité rupture et erreur probable, ont très peu de poids dans les fréquentations. Par contre, j'avais souhaité qu'il y ait des ressources technologiques et scientifiques, et à mon avis, c'est quasiment une épistémologie des STAPS, c'est-à-dire que ça nous permet de mettre en relation des champs disciplinaires qui éclairent la pratique grâce aux pairs médias, et ça me semble un enjeu très important. Et là, c'est un succès, puisque ces pages sont très consultées. Donc, le bilan, c'est que le site a beaucoup de succès, qu'il y a des retours très positifs des utilisateurs. Maintenant, il faudra étudier comment évoluent les utilisateurs habituels. Mais on peut avoir des interrogations sur les objectifs d'impact, sur les représentations initiales. Maintenant, qu'est-ce qu'il me resterait à faire? C'est d'identifier les différentes catégories d'utilisateurs, d'affiner l'analyse des accès et des navigations, Et ça, Google Analytics me donne des pourcentages sur les clics, mais c'est très volumineux et c'est très difficile à exploiter. Il faudrait tester et modéliser le comportement de l'utilisateur en relation avec une intervention prescrite ou libre. Demandez à des gens, comme je l'avais fait pour le film, vous allez me préparer une leçon et tester comment il utilise cette ressource quand il a une leçon à préparer ou des leçons à préparer à différents niveaux. Et évaluer l'impact sur l'intervention en termes de conception et d'intervention sur le terrain, c'est-à-dire, comme je l'avais fait pour le film, aller voir sur le terrain comment fonctionnent les gens qui sont formés à travers ce médium. Donc, ce qu'on peut souligner en conclusion, c'est que la production immédiate, hypermédia, relève, et je crois que mes collègues qui en ont fait le diront aussi, d'une négociation entre deux cultures. Il y a quelqu'un qui est porteur d'une culture scientifique ou didactique ou technologique et il doit travailler avec des gens qui ont une culture technologique, une culture du média. Et il faut que l'interface fonctionne, c'est-à-dire qu'il faut avoir ses compétences d'interface. La deuxième chose, c'est que la démarche de recherche et développement exige des moyens de test et d'aller-retour. Et pour le moment, c'est pas intégré à la structure. C'est-à-dire que produire, c'est quelque chose qui est admis et qui est valorisé. Le problème, c'est que dans l'industrie du jeu, par exemple, dans l'industrie qui produit des choses interactives, on teste, on a dans le budget du financement pour tester. Et ça me paraît indispensable. Il y a, à mon avis, un déficit de connaissances sur l'utilisateur et sur l'utilisation. Et ça hypothèque l'investissement. C'est-à-dire qu'on fait des investissements lourds dans l'hypermédia. Et plus on en saura sur la manière dont les gens l'utilisent et qui l'utilisent, plus notre investissement sera valorisé. Voilà, vous pourrez trouver ici vous avez le lien du site et vous pourrez trouver le détail de l'étude, notamment la partie volleyball, à cette adresse-là. Je vous remercie de votre attention.